Bonsoir. Il est
Bonsoir.
toujours très difficile, à mon avis, et c'est pourquoi l'intitulé de cette conférence m'intéressait, de parler d'une musique dont en réalité on n'a aucune trace. Parce que les descriptions de la musique qu'on a, de mon point de vue, et j'avoue mon ignorance par rapport à votre savoir à vous, les esclaves ne décrivaient pas leur musique. Ils ne l'écrivaient pas, ils la vivaient. Donc, de ce point de vue-là, je crois que nous, ce qu'on peut comprendre, c'est ce qu'il reste de leur création. Et je crois que c'est ce qui est le plus important. Si aujourd'hui en Guadeloupe, nous avons une musique qu'on appelle Roka et qui existe avec les difficultés, c'est qu'elle avait la puiser dans cette existence une force et qu'on n'a pas réussi à maîtriser. Donc, je crois que il y a quelque chose un petit peu qui m'a gêné, un petit peu dans votre exposé et sous-tendu dans d'autres interventions, c'est qu'on a l'impression qu'on ne reconnaît la musique des esclaves que lorsqu'on reconnaît qu'ils ont du talent. Et reconnaître qu'ils ont du talent, ça veut dire qu'ils sont capables de jouer du violon aussi bien que les blancs. Et ça me gêne, parce que les critères musicaux ne sont pas ceux-là. Lorsque les esclaves, de mon point de vue, et effectivement ce n'est qu'un point de vue, jouent leur musique, ils ont leurs propres références. Lorsqu'ils reconnaissent qu'un tambouillé en Guadeloupe est bon, il y a des critères qui sont écrits nulle part. Il y a de la virtuosité, il y a tout ça, qu'on peut peut-être retrouver hein, dans ces critères, on peut les retrouver dans d'autres musiques, c'est normal, puisque ce sont les sons, etc. Mais les critères n'ont jamais été là. Alors, c'est pourquoi je crois que même à notre niveau, qui vivons en Guadeloupe, qui nous intéressons à cette musique-là, il est important quand même de faire la part des choses. Alors, je vais vous poser une question qui a peut-être apparemment pas de liaison, mais ça me permettra de mieux comprendre votre recherche. Comment est-ce que vous analysez, vous comprenez un musicien comme le Chevalier de Saint-Georges? Et comment vous analysez je sais pas, cette sorte d'enthousiasme qu'il y a à dire que oui, voilà, c'est le Chevalier de Saint-Georges qui a donné à notre musique ses lettres de noblesse? Ce sont des choses qu'on dit. Et moi, ça me dérange profondément. Mais moi, je voudrais avoir votre point de vue et ça me permettra après de vous poser d'autres questions.
Alors juste une précision pour dire que je n'ai pas parlé de tout ce dont vous avez parlé là, à savoir la valeur de la musique du gros cas, etc. J'ai dit que ça, c'était un acquis. Hein. J'en ai pas parlé parce que j'ai considéré qu'il y avait des choses nouvelles que je pouvais essayer d'apporter, mais ça, c'est évidemment pas quelque chose que j'ai passé sous silence. Non, non, au contraire, ça, c'est un acquis et ça fait partie des choses. Non, non, j'ai juste voulu montrer qu'il y avait d'autres musiques et j'ai essayé de faire un tableau un peu plus large que l'on ne fait d'habitude sur toutes les musiques possibles, mais il est évident que la musique de Roka, la musique afro-créole, la musique de tambour, tout ça, a une valeur qui parle d'elle-même. Il n'y a pas de problème sur ce plan-là. Ceci étant, vous dites que les esclaves n'écrivaient pas leur musique et que de ce fait-là, on ne la connaît pas, mais ils l'ont transmise. Juste une précision pour dire qu'une musique écrite qui ne serait qu'écrite, on ne pourrait pas la jouer. C'est-à-dire, c'est exactement pareil pour la musique classique. Si on a de la musique classique qui nous vient du, je sais pas moi, 18e siècle et qu'il n'y a personne qui est passé de main en main pour nous dire comment l'interpréter, on ne sait pas comment l'interpréter. Or, la musique de tambour, pour le parler du Gros-Cas, la musique de Gros-Cas, elle se transmet. C'est un patrimoine de transmission orale qui n'est pas moins fiable qu'une transmission qui serait passée par l'écrit, peut-être même plus fiable qu'une transmission qui serait passée par l'écrit sans avoir l'oral. Hein. Alors maintenant, concernant le Chevalier de Saint-Georges, moi personnellement, j'aurais tendance à dire que le Chevalier de Saint-Georges, il n'est pas forcément guadeloupéen, bien sûr qu'il est guadeloupéen, on le considère comme guadeloupéen, mais si on considère que son père était un Français, d'accord, qui n'est pas resté en Guadeloupe, que sa mère était une esclave qui ensuite a été affranchie quand ils sont repartis en France, quelle était son identité véritable? C'est pas évident. Et d'autant plus, si on regarde sa musique, qu'est-ce qu'il y a dans sa musique qui pourrait éventuellement faire penser à quelque chose de guadeloupéen, que ce soit créole, que ce soit africain, difficile à dire. Pour l'instant, on n'a pas trouvé. Donc, pour ce qui me concerne, je considère qu'il est d'origine guadeloupéenne, parce qu'il est né en Guadeloupe, que culturellement, c'est bien difficile de dire quelles étaient ses positions, c'est pas simple, et que sa musique, c'était de la musique française. D'accord ? C'est comme Lethière, Lethière, peintre, qui est peintre académique, on connaît Lethière, bref, il est guadeloupéen aussi, Lethière. Hein ? Mais est-ce que sa peinture est guadeloupéenne ? Bon. Ça me paraît un débat, si vous voulez, un peu de... Comment dire ? Bon, je comprends qu'on puisse vouloir remettre le Chevalier de Saint-Georges qui a été injustement déconsidéré ou mal considéré, alors que c'est un musicien de grande qualité, ça c'est sûr. Et que ce soit lié à ses origines, c'est aussi une chose à remettre à sa place, c'est clair. Mais pour en faire vraiment une sorte de gloire de la musique guadeloupéenne, non, par contre, je ne suis pas convaincu. Franchement, je ne suis pas convaincu. En tout cas, j'espère que vous n'avez pas retenu de ce que j'ai dit que la musique de violon était supérieure à la musique de tambour. Bon. Ce n'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. Hein.
Non, je pense que votre intervention là est claire. Ce que je voulais savoir, ça permet de vous situer vous-même, puisque je ne connais pas bien
votre
travail et l'orientation que vous avez. Mais je crois que c'était important de dire ça pour les raisons que j'ai soulignées tout à l'heure. Très souvent, on ne reconnaît réellement la valeur du musicien que s'il est reconnu par l'autre.
Ah.
Vous voyez ?
Oui.
Et ça, c'est un problème. C'est-à-dire, y compris lorsqu'on parle de notre musique, y compris par nous-mêmes, Guadeloupéens.
Ah, ça, tout à fait.
Il arrive très souvent qu'on dise, oui, il est fort parce que, regarde, il est capable de jouer du Mozart, il est capable de jouer, même, je vais même plus loin, hein. On fait la comparaison avec le jazz. S'il sait jouer du jazz, il est un musicien.
Non, je suis d'accord avec vous.
Mais tant qu'il ne joue que de la musique guadeloupéenne, bon, c'est banal.
Oui,
alors, or, ça veut dire que nous-mêmes, nous ne donnons pas réellement à notre musique la valeur qu'elle a. C'est pourquoi, lorsque tout à l'heure, Alex intervenait pour expliquer la situation de l'esclave et le développement qu'il y avait, et le fait que la musique était... aussi un élément de résistance à l'esclavage, je pense que c'est dans cette direction-là qu'il a fait. Lorsque un musicien comme Gérard Locquel, par exemple, lui, il a pris une position très déterminée, on peut critiquer, on peut avoir tout ce qu'on veut, mais il a permis justement de montrer ça. Mm-hmm. C'est-à-dire que notre musique a ses propres codes. Mm-hmm. Ce n'est pas parce qu'on utilise un instrument occidental
Absolument. Et
qu'on utilise simplement un mode, etc., que pour autant... on est dans la musique occidentale. Merci.
Mais d'ailleurs, pour rebondir sur ce que vous venez, il y a un chapitre, à la limite, de la musique guadeloupéenne qui pourrait être écrit. C'est la musique guadeloupéenne vue par les Français. Comment la France et comment l'histoire et la musicologie française s'est complètement désintéressée des Antilles et quelles sont les incidences sur l'idée que l'on a de la musique en Guadeloupe même. Bon, vous avez vu le banza dont j'ai parlé tout à l'heure qui a été laissé dans des caisses pendant plus d'un siècle, c'est révélateur. N'est-ce pas ? Et ça, on peut le vérifier. Vous avez raison de dire qu'il y a le regard de l'autre qui joue dans la question de la valeur de ce que l'on fait. On retombe sur les questions dont on parlait avec monsieur, sur les questions de valeur. Je parlais tout à l'heure du français et du créole, mais c'est valable aussi pour la musique. C'est un problème immense. Et à mon avis, le problème, il prend naissance dans cette époque-là, quand on commence par considérer qu'il n'y a pas d'histoire. Quand on commence à penser que certains peuples ont une histoire, d'autres peuples n'ont pas d'histoire parce que ça ne bouge pas. Alors je suis d'accord, tout à fait d'accord avec monsieur que la musique, c'est une résistance dans des conditions épouvantables. C'est résister, tenir. Et en même temps, il y a des choses qui se passent. Il y a une construction. Il y a un grand historien américain qui s'appelle Genovese qui a écrit un livre qui s'appelle « Le monde qu'ils ont fait ». Le monde qu'ils ont fait, et il a sous-titré par un titre de spiritual. Le monde que les gens ont fait. Ils étaient dans l'esclavage, mais ils ont fabriqué une culture musicale.